Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez et mets en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Nous prions, mon Dieu, qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pilis, Saint Joseph, Saint Ignace de Loyola, Saint Thomas d'Aquin, Père du Fils du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, on va un peu avancer dans le traité des anges. Rappelez-vous que saint Thomas est appelé le docteur angélique, entre autres parce qu'il a beaucoup parlé des anges. Alors, j'ai résumé la dernière fois cette partie donc de la soteriologie de saint Thomas. Donc, quel est le degré de connaissance des anges? C'est la première question que va se poser saint Thomas d'Aquin. Est-ce que les anges connaissent comme les hommes, ou qu'ils connaissent plus que les hommes? Est-ce qu'ils connaissent comme Dieu lui-même peut connaître les choses? Bon, il est évident que, je vous l'expliquais la dernière fois, l'ange connaît bien plus que l'homme. Pourquoi? Parce que son système de connaissance est plus perfectionné que le nôtre. Puisque l'homme a un système de connaissances par abstraction, à partir des choses extérieures, qui sont synthétisées en quelque sorte, intellectuellement parlant, pour former une image à l'intérieur du cerveau de ce qui se passe à l'extérieur, il est évident que l'homme, excusez-moi dans ce cas-là, a un système de connaissances assez lent. Donc, l'ange, au contraire, n'ayant pas de corps, n'a pas besoin d'un système par abstraction, il va utiliser un système intuitif de beaucoup plus rapide. Donc, l'ange, bien sûr, se connaît lui-même. Saint Thomas prend comme donc en bas de la page 18 sur le polycopier. Saint Thomas rappelle qu'il y a trois manières de connaître une chose. Soit par la présence, son essence dans le sujet, la façon dont l'œil voit la lumière. C'est de cette manière que l'ange se connaît lui-même. C'est-à-dire, l'homme voit par le moyen de la lumière. Donc l'ange se connaît lui-même un peu de cette façon-là. Donc, deuxième moyen de connaître les choses par la similitude dans la puissance connaissante, comme l'œil voit la pierre, parce que la similitude de la pierre est dans l'œil. D'accord ? Donc c'est un petit peu ce qui se passe pour l'homme. L'homme connaît les choses par similitude d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il va connaître les choses lorsqu'il peut avoir dans son esprit l'image de la chose qui est extérieure. Si l'image qu'il a à l'intérieur de son cerveau, à l'intérieur de son intelligence, correspond à la réalité extérieure, on est dans le vrai. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin va définir le vrai par la formule lapidaire très connue, adequatio reit intellectum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'adéquation, c'est-à-dire l'égalité, en quelque sorte, entre la chose extérieure et son image dans l'intelligence. Dû encore plus au but, l'adéquation, l'égalité, l'égalité, on peut dire ça, entre la chose qui existe dehors et l'intelligence elle-même. Donc, troisièmement, en haut de la page 19, très malade, je vous donne les feuilles là. Donc, en fait, on est à la page 19, hein, en haut de la page 19. Voilà. Ouais. Donc, troisième façon de connaître, par une similitude de la chose connue qui n'est pas donnée immédiatement mais par une autre dans laquelle se trouve cette similitude. Donc, c'est une autre façon de connaître, un peu comme un homme qui se regarde dans un miroir. L'homme qui se regarde dans le miroir va avoir une image de la réalité de l'homme. Alors, ce qu'il va expliquer, dans le deuxième paragraphe de la page 19, il est évident que saint Thomas d'Aquin va donc expliquer les limites de cette connaissance. Bon, il explique d'abord tout de suite que l'homme, Dieu seul, peut se voir dans son essence. C'est-à-dire, la connaissance, Dieu seul peut avoir une connaissance parfaite de lui-même. Les hommes ne peuvent pas avoir une connaissance de Dieu de la même façon, même au ciel. Parfois on dit, c'est faux qu'au ciel on verra Dieu tel qu'il est. C'est absolument faux, d'une certaine, philosophiquement parlant, c'est faux. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu tel qu'il est. Pour pouvoir comprendre Dieu et voir Dieu tel qu'il est, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait être Dieu soi-même. On voit très bien lorsque, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ va dévoiler une partie de sa divinité au Tabor, lorsqu'il apparaît aux trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, la transfiguration au Tabor, qu'est-ce que font, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres tombent la face contre terre complètement paniqués. Parce que pour eux, et c'est la réalité, l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir. Pourquoi? Parce que la lumière, si vous voulez, la lumière divine est tellement forte par rapport à ce que l'homme peut accepter de cette lumière qu'elle aveugle. De la même façon, si vous êtes tout proche ou assez loin d'une lampe très forte, vous arrivez à voir ce qui se passe. Si au contraire, vous rapprochez de cette lumière, cette lampe très forte, plus vous êtes aveuglé. Et finalement, si vous mettez à 1 mètre de la lumière, vous regardez droit dans la lumière, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez plus rien. D'accord? Et ce n'est pas la même chose avec entre Dieu et l'homme. Donc, l'homme ne peut pas posséder par ses moyens naturels l'essence divine. Donc, il y a deux questions qui vont se poser. Première question, est-ce qu'il est possible à l'homme, par des moyens naturels, de posséder Dieu? La réponse est non catégorique. Deuxième question, est-il possible pour l'homme de posséder Dieu par des moyens surnaturels? Si Dieu donne à l'homme un moyen surnaturel de le comprendre au moins en partie, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. C'est-à-dire, personne ne peut comprendre Dieu dans sa nature, par ses propres moyens naturels, mais Dieu peut donner à l'homme, en quelque sorte, un élargissement de sa puissance de connaissance, de telle façon que l'homme puisse voir une partie de Dieu, puisse connaître une partie de l'essence de Dieu. Donc, la connaissance que nous avons ici-bas de l'essence divine est extrêmement limitée. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement à cause du fait qu'on a un corps. Et donc, on ne peut pas du tout comprendre Dieu. Pour cela que Dieu, lorsqu'il se manifeste aux hommes, a dû se cacher, a dû cacher sa divinité pour que l'homme puisse, justement, comprendre Dieu. On le voit très bien dans Sainte Eucharistie. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a-t-il voulu se cacher sous l'apparence du pain pour se donner à nous par la Sainte Eucharistie? Justement parce que l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir. C'est à ça qu'il faut comprendre. Donc, ce que dit Saint Thomas d'Aquin, aucune créature ne peut posséder Dieu par ses moyens naturels. C'est absolument impossible. Même au ciel, notre degré de connaissance de Dieu sera imparfait. Bon. De quoi va dépendre ce degré de connaissance de Dieu? S'il y a une centaine d'hommes qui sont au paradis, chacun va avoir un degré de connaissance de Dieu qui sera différent. Pourquoi? Parce que chaque homme a un degré de charité différent au moment où il meurt. Et donc, il est évident que quelqu'un qui a un degré de charité presque total, par exemple la Sainte Vierge Marie, ce qui est pleine de grâce, quelqu'un qui a un degré de charité presque total va avoir beaucoup plus de l'essence divine que quelqu'un qui n'a pas ce même degré de charité. Donc, le degré de connaissance de l'essence de Dieu au ciel va dépendre du degré de charité que nous avons au soir de notre vie, au moment de notre mort. Ça, c'est une chose absolument capitale à comprendre. Donc, même les anges ne sont pas capables de comprendre Dieu dans son essence. Ils peuvent comprendre une partie de Dieu, pas plus. Pourquoi? Parce que l'essence divine, si vous voulez, l'intelligence divine, même si elle est très largement supérieure à l'intelligence humaine, reste extrêmement inférieure à l'intelligence divine. Donc même l'ange ne peut pas connaître Dieu de façon parfaite dans son essence. Alors comment va-t-il le connaître? Eh bien, Saint Thomas va dire que c'est la troisième manière. À la troisième manière correspond la connaissance que nous donne Dieu d'ici-bas, sa similitude qui se reflète dans les créatures. C'est-à-dire que Dieu va se manifester comme une image qui se manifeste sur un miroir. L'image qui se manifeste sur un miroir représente la réalité. Quand vous regardez sur un miroir, vous voyez une image. Est-ce que cette image est la réalité? Elle correspond à la réalité. Vous voyez un homme, vous voyez votre visage dans le miroir. Le miroir, en fait, c'est qu'un miroir réfléchissant. Le visage n'est pas sur le miroir. D'accord? C'est un simple reflet d'un visage qui existe extérieurement. Eh bien, saint Thomas explique donc justement que le degré de connaissance de Dieu que Dieu nous donne ici-bas, par sa grâce, est une similitude qui serait faite dans les créatures. Donc c'est l'enseignement de saint Paul. Nous connaissons les réalités invisibles de Dieu par les choses visibles qu'il a faites. On constate un certain nombre de créations de Dieu, créatures de Dieu, et à partir de ces créatures de Dieu, on peut monter au créateur. Rappelez-vous les preuves de l'existence de Dieu, on les retrouve ici. Donc l'homme va comprendre la divinité par l'intermédiaire des créatures. C'est-à-dire, par exemple, en voyant une belle chose ici-bas sur la terre, il va comprendre que cette belle chose est une beauté finie, mais qui représente une beauté infinie, qui est la beauté divine. Et rappelez-vous la preuve d'existence de Dieu par les degrés d'être de saint Thomas d'Aquin, j'ai déjà expliqué, il y a sur la terre différents degrés de bonté, de beauté, de vérité, etc. Eh bien, Dieu est l'essence même de cette beauté, cette bonté, cette vérité. Dieu est la vérité, la bonté et la par essence. D'accord ? Ce que dit ici saint Paul, nous connaissons les réalités invisibles de Dieu par les choses visibles qu'il a faites. C'est-à-dire que la divinité va se refléter sur le miroir des hommes pour justement se donner aux gens, pour que sa connaissance puisse être accessible. C'est-à-dire que les conséquences sont absolument énormes chez nous. Pourquoi ? Parce que littéralement, on peut expliquer ça comme ça qu'on explique aux enfants, l'homme, le cœur de l'homme est un petit miroir. Donc ce miroir, dans la mesure où l'homme vit en état de grâce, ce miroir va réfléchir le bon Dieu, l'essence divine. Si au contraire, cet homme vit dans le péché mortel, l'homme va devenir incapable de faire réfléchir par son âme la lumière divine, et donc il va faire réfléchir, au lieu de faire réfléchir notre Seigneur Jésus-Christ, il va réfléchir lui-même. Il va tomber dans l'humanisme. D'accord ? Alors, c'est un peu des mystères. Hein ? Alors, donc on voit, c'est ce que dit saint Paul, chapitre 13 du 1er aux Corinthiens, qu'on voit les réalités invisibles de Dieu par les choses visibles qu'il a faites, nous le voyons comme dans un miroir. C'est-à-dire qu'on s'approche de Dieu, on ne peut pas voir Dieu par lui-même, c'est absolument impossible, donc on va voir la réflexion, le reflet de Dieu dans les choses. Plus on observe une chose animée, qui a un degré d'intelligence plus supérieur, plus on voit la beauté de Dieu dans cette chose. Prenez par exemple une plante. Une plante, c'est vivant. Elle vit dans une feuille d'arbre. Bon, cependant, le degré de bonté qui est manifesté, de bonté divine qui est manifestée par une feuille d'arbre, est tout de même très limité. Au contraire, prenez par exemple un animal, un chat ou un chien. Le chat ou le chien vont refléter aussi une partie de l'essence divine, dans le sens qu'il y a quelque chose de Dieu qui va passer par le chat et le chien. Qu'est-ce qui va passer ? La vie. Le chat a une vie, et cette vie nous oblige à remonter vers l'auteur de toute vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a créé tous les chats. D'accord ? Alors c'est pas très facile à comprendre ces choses-là, parce qu'il faut faire attention maintenant de ne pas tomber dans le matérialisme. D'accord ? Alors, plus on monte dans la connaissance, prenez par exemple l'image de Dieu qui apparaît dans un homme en état de grâce, bon, cette image de Dieu sera évidemment beaucoup plus forte que l'image qui peut apparaître sur une simple créature sans intelligence. Bon, l'image de Dieu qui apparaît, se reflète sur un cœur humain, cette image va nous faire pénétrer dans l'essence divine de façon largement supérieure à l'image qui se reflète sur une créature non animée, une créature sans ordre déraisonnable. D'accord ? Bien. Si on monte encore à l'échelon supérieur, c'est pareil avec les anges. Les anges manifestent la beauté divine, beaucoup plus que nous, puisqu'il n'y a pas l'obstacle du corps. Donc le degré, si vous voulez, de charité des anges au ciel peut être largement supérieur au degré de charité qu'on puisse avoir ici-bas, parce que justement, ils ont quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus qu'ils ont, c'est la connaissance par intuition. Étant beaucoup plus proche de Dieu, eh bien, ils vont avoir un degré de connaissance de Dieu qui est largement supérieur au nôtre. Ce que dit saint Ignace, la nature angélique est donc comme un miroir qui présente la similitude de Dieu. C'est qu'on voit notre image. Vous regardez un miroir, vous voyez votre image dans le miroir. Bon, c'est pas la même chose avec Dieu. Quand un homme est en état de grâce, le cœur de cet homme, si vous comparez l'âme de cet homme qui est dans l'état de grâce à un petit miroir, cette image, ce miroir va refléter la divinité de notre Seigneur. Pourquoi ? Parce que cet homme est en état de grâce. Donc plus le degré de charité d'une âme va augmenter au moment de sa mort, plus cette âme, évidemment, aura un degré de connaissance de Dieu, un degré de connaissance de l'essence divine supérieur à tout le reste. D'accord ? Ce que dit saint Thomas, l'image de Dieu étant imprimée dans sa propre nature, l'ange connaît Dieu par sa propre essence, en tant qu'elle est une similitude de Dieu. L'homme, rappelez-vous la grande phrase qu'on trouve dans le livre de la Genèse, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bon, est-ce que Dieu peut dire, prononcer cette phrase à l'égard, par exemple, d'un chien ou d'un dauphin? Parce qu'on ne peut pas dire, le chien a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est impossible. Par contre, cette phrase peut être appliquée à l'homme. Ça veut dire quoi? L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, c'est quoi? L'image des cieux, c'est le fait qu'on a en nous une âme, donc une âme spirituelle qui n'est absolument pas dans une créature de, par exemple, un chat ou un chien. Bon, au contraire, donc, le degré donc de charité va dépendre de ce degré de connaissance de Dieu. D'accord? Bon, c'est pas très facile, c'est pas ça, c'est très philosophique. Hein? Donc l'ange connaît Dieu par sa propre essence en tant qu'elle est similitude de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'image de Dieu en nous, c'est quoi? C'est le fait qu'on a une âme. Une âme, c'est quelque chose de surnaturel. Évidemment, c'est surnaturel, c'est une chose qui est directement façonnée par Dieu. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'âme. Par exemple, dans un dauphin ou même un chien qui a des réflexes extraordinaires, il lui manque l'image de Dieu. Bon, donc, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On est tous créés à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est tous créés par Dieu, mais sont à la similitude de Dieu, ceux seuls qui sont créés dans l'état de grâce. Donc, seul, un homme en état de grâce peut se dire fils de Dieu. Les enfants de Dieu, ça c'est très important de comprendre aujourd'hui, surtout avec toutes les abominations prononcées par François sur le sujet. Pour François, il n'y a plus aucune différence. Pour un catholique, nous savons, nous catholiques, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, parce qu'il y a dans l'âme de l'homme une étincelle divine. Étincelle divine, cette étincelle divine, c'est l'étincelle de la charité. Donc en fonction de notre degré de charité, nous aurons une beauté d'âme qui est différente. Saint Thomas d'Aquin. Donc l'ange ne voit pas même l'essence de Dieu, aucune similitude créée n'étant capable de représenter l'essence divine. Cette connaissance se rapproche donc davantage de la connaissance au moyen d'un miroir, puisque la nature angélique est comme un miroir qui présente la similitude de Dieu. Donc ça veut dire quoi tout ça? Donc, l'ange connaît Dieu par sa propre essence en tant qu'elle est une similitude de Dieu. C'est-à-dire, Dieu se manifeste à l'homme par une image dans un miroir. Le miroir est plus ou moins grand. Le degré de netteté de l'image, si vous voulez, est plus ou moins grand en fonction du degré de charité qu'à l'homme. Donc, c'est la conclusion de saint Thomas d'Aquin, cette partie. La nature angélique, les anges, donc, sont comme un miroir qui présente la similitude de Dieu. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu parce qu'il a une âme. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Par quoi l'homme est-il créé à la ressemblance de Dieu? Par l'état de grâce, justement. C'est l'état de grâce qui rajoute quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu? Oui. Est-ce qu'on peut dire que tous les hommes, même les bouddhistes ou les musulmans, sont créés à l'image de Dieu? Oui. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est que l'homme a été créé, c'est que le musulman a été créé à la ressemblance de Dieu. Parce qu'il manque quelque chose dans l'âme, sur l'âme de ce musulman, quelque chose qui est irrattrapable tant qu'il n'a pas reçu le baptême. Et c'est toute la grandeur du sacrement de baptême, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, surtout quand on baptise des adultes, ça arrive souvent, ça fait la traite, de voir des gens c'est vrai, qui se présentent en quelque sorte, des gens à qui manque quelque chose au début, qui sont simplement des images de Dieu dans le sens qu'ils ont une âme, ils ne savent parfois même pas. Et avec la retraite, donc ils découvrent qu'ils ont été créés, qu'ils peuvent aussi être créés à la ressemblance de Dieu. Et au moment où ces païens, parce que beaucoup sont des païens qui viennent faire l'exercice, c'est le moment où ces païens, en quelque sorte, trouvent notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce du baptême, c'est comme une espèce de feu d'ouragan qui va tout purifier dans l'âme. Absolument tout purifier dans l'âme. Donc,
on pourrait se demander pourquoi ce ne serait pas la foi qui nous rapprocherait plus plutôt que la charité.
Parce que justement, la foi sans la charité est une foi morte. Saint-Thomas utilise un autre terme, il dit que la foi sans la charité c'est une foi informe. Alors, la foi informe est toujours là. C'est un peu, moi on compare souvent ça par exemple à un rosier par exemple qui est en train de mourir. Vous n'avez pas arrosé depuis 3 mois, il est en train de mourir. Bon, si vous attendez encore une semaine sans l'arroser, il va mourir complètement. Mais il est toujours vivant, d'une certaine façon. Il suffit de remettre de l'eau dessus, de façon régulière, il va reprendre de la vigueur, donner des fleurs. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez, un petit peu la même chose. La foi, en soi, c'est comme une coque vide. Pourquoi ? Parce que s'il manque la vertu de charité, c'est que si vous voulez, comme si vous voulez une pièce qui contient un trésor, mais vous ne voyez rien parce qu'il n'y a pas de lumière. Il faut la lumière de la foi, c'est la vertu de charité. C'est pour ça que Saint Paul, la fameuse épître aux Corinthiens, chapitre 13, Saint Paul va jusqu'à dire, si j'ai toutes les connaissances des hommes, si j'ai tous les biens des hommes, si j'ai tout ce que tout le monde entier peut me donner, si je n'ai pas l'amour du bon Dieu, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'état de grâce, je ne suis rien.
Oui, d'un autre côté, notre Seigneur dit au bon larron, ta foi t'a sauvé.
Mais attention, le bon larron a été sauvé pas par sa foi, le bon larron a été sauvé par l'acte de charité qu'il a fait.
Dans la foi.
En fait, Dieu a fait miracle pour le bon larron. Il a donné l'illumination de la foi, de l'espérance et de la charité. Quand il dit « Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume », ce n'est pas simplement un acte de foi, c'est un acte d'amour à l'égard du bon Dieu, même s'il n'y a pas encore la grâce du baptême. Eh bien, donc ipso facto, Dieu va lui donner littéralement la grâce du baptême, il va trouver la foi. La foi, l'espérance, et donc avec ça, la charité. C'est sûr que c'est un peu un mystère, hein, parce que on peut se demander justement... aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que c'est tellement important de rappeler à temps et à contre-temps que les enfants de Dieu ne sont que les gens qui sont baptisés. Donc un non-baptisé n'est pas enfant de Dieu. Un non-baptisé reste quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, parce qu'il a une âme, donc il a une âme. Ayant une âme, il y a quelque chose de surnaturel, de naturel en lui, l'âme est naturelle pour l'homme, mais... De, si vous avez quelque chose qui a un potentiel pour la spiritualité, qui n'a pas du tout, par exemple, quelqu'un qui n'est pas catholique, mais justement, s'il manque la vertu de charité, c'est comme un rosier qu'on n'arrose pas, il finit par mourir. Et donc, c'est pour ça. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et ce qui fait le salut, ce n'est pas l'image de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est un degré au-dessus, la connaissance de Dieu par la vertu de charité. Donc, un degré de gloire au ciel va dépendre du degré de charité qu'on a. D'où l'importance absolument fondamentale de la confession fréquente. La confession fréquente est très très importante parce que la confession fréquente, même si vous restez habituellement en état de grâce, Dieu merci, la confession fréquente, c'est comme un nouvel assainissement de notre âme, une nouvelle, imaginez que vous passez de nouveau la serpillière dans l'âme pour que l'âme soit encore plus propre que d'habitude. Alors, donc, j'avance un petit peu, là, on est au paragraphe 1, 2, 3, 4e paragraphe. Donc, tout ce qui trouve, je vais prendre certaines parties pour simplifier un peu les choses. Donc, dans son éternité, Dieu voit tout. Dieu étant éternel, a un regard sur tout. Pourquoi ? Parce que toutes les choses qui sont, sont comme ayant été créées par lui, qui est un quart de seconde. Il y a un quart de seconde. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Donc, il n'y a pas d'avant et d'après. Votre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, votre Seigneur pour Dieu, au ciel, si vous voulez, Dieu a un regard divin par lequel il voit tout, ce qui pour nous est impossible. Pourquoi ? Parce que grâce à sa simplicité, cette éternité est présente au temps tout entier, elle le contient. Donc, Dieu, dans son éternité, voit toute chose, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc, l'ange ne connaît pas par composition et par division, c'est-à-dire par abstraction, mais par intuition de l'essence. Donc l'homme, l'ange va avoir un degré de connaissance largement supérieur au nôtre à cause de ça, il va comprendre par l'intuition de l'essence. D'accord ? Alors, après on verra les autres articles de cette question numéro 50, en fait on va aller jusqu'à la question 64, eh bien... on va comprendre justement que il y a une partie, si vous voulez, naturelle de l'ange qui ne peut pas être détruite. Pour ça que le démon en enfer a encore une certaine beauté dans le sens qu'il a quelque chose dans sa forme, dans sa substance même, dans son essence même, il a quelque chose qui est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans le démon ? Le fait qu'il est un ange, il reste un ange, donc il reste avec le pouvoir de l'ange. Et qu'est-ce qu'il fait, enfant de Dieu? C'est pour ça que c'est tellement grave, c'est plus que grave, c'est gravissime. Ce gars dit Francisco François, Bergoglio à Rome, quand il fait croire aux gens que tous les hommes sont enfants de Dieu. Ça, c'est totalement faux. Il faut vraiment s'arc-bouter contre cette hérésie qui est énorme, parce que sont des amis de Dieu, si vous voulez, sont des enfants de Dieu, que les catholiques. Les catholicismes, la grâce du baptême, le baptême va donner à l'âme une beauté extraordinaire, beauté qui va terminer à un point très précis, hein, l'homme, par le baptême, va devenir enfant de Dieu. On n'a absolument pas le droit de dire que tous les hommes sont enfants de Dieu, parce que c'est faux. En disant que tous les hommes sont enfants de Dieu, on détruit complètement la cité du baptême, plus de baptême. Avançons un petit peu. Alors, voyons un passage un petit peu sur les démons, on va y revenir parce qu'il y a d'autres questions plus spécialisées en quelque sorte sur ce problème du démon. Mais voilà déjà ce que dit ici Saint Thomas d'Aquin. Chez les démons, la volonté perverse soustrait l'intelligence à la sagesse divine. Aussi juge-t-il parfois les choses d'une manière absolue en ne tenant compte que des conditions naturelles. Dans cet ordre naturel, ils peuvent se tromper, mais pour ce qui regarde de l'ordre surnaturel, ils le peuvent. Cela arriverait par exemple si, voyant un homme mort, il pensait qu'il ne ressusciterait pas, ou bien voyant le Christ dans sa nature humaine, il pensait qu'il n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'ange mauvais garde sa nature angélique, donc garde une certaine habilité, une certaine habilité, si vous voulez, à voir Dieu que nous n'avons pas, parce que justement on a l'obstacle du corps. Donc le degré de connaissance de l'ange est donc limité par la volonté divine. C'est évident que si les anges, je parle des anges mauvais, des anges prédicateurs, des anges mauvais, sont extrêmement limités dans leur connaissance de Dieu. Est-ce qu'ils ont une connaissance de Dieu? Oui, une certaine connaissance de Dieu. Mais très limitée, pourquoi? Qu'est-ce qu'il en manque? La charité. N'ayant pas la charité, si vous voulez, il ne peut pas voir Dieu. N'oubliez pas qu'on voit Dieu, qu'est-ce qui nous donne la vision de Dieu d'une certaine façon? C'est la charité. Ce n'est pas la foi, l'espérance, c'est la charité. La charité qui nous élève vers le bon Dieu. Donc quelqu'un peut avoir tout le reste, s'il n'y a pas la charité, il lui manque. Il manque tout. C'est ce que dit Saint Paul. J'ai toutes les choses qui se peuvent obtenir dans le monde moderne. Et bien, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis comme un symbole, une cloche qui sonne au vent. La cloche sonne au vent, et puis, deux minutes après, on n'en parle plus parce que c'est fini, c'est passé. La sonorité est passée. Et du coup, il ne reste absolument plus rien. Alors, on verra après tout ça. Plus à fond.
On ne le voit pas forcément à travers les autres. On peut voir du beau, du bien. On ne sait pas si c'est.
Il y a toujours du beau, une certaine forme de bonté dans l'homme. Bon, puisque. Vous ne pouvez pas détruire la nature humaine complètement. Or, dans la nature humaine, il y a des choses qui sont bonnes. Quelles sont les choses qui sont bonnes dans la nature humaine par elle-même? L'intelligence, la volonté, par exemple. L'existence en nous d'un système qui nous permet de découvrir le vrai, ça c'est quelque chose de bon. Bon, où le problème va-t-il se passer? Le problème va se passer dans le fait que la plupart des hommes ne s'occupent pas de l'état de grâce. Donc, ils s'arrêtent à une connaissance naturelle de Dieu. La connaissance naturelle de Dieu, elle est donnée par l'état de grâce. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens s'en fichent complètement. Surtout avec les dernières déclarations de Bergoglio, qui sont gravissimes, justement, à cause de ça, parce que Bergoglio va jusqu'à dire que, littéralement, le baptême n'a plus aucune utilité. Il n'y a plus d'utilité du baptême, plus de nécessité du baptême. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont sauvés. Parce que les hommes sont tous enfants de Dieu. Si les hommes sont tous enfants de Dieu, à quoi ça sert d'avoir le baptême? D'accord? Il manque quelque chose. Alors ensuite, trois paragraphes avant la fin de la page 19.
On le voit, ce que je veux demander, c'est, on le voit à travers les autres, par intuition par une communion spirituelle.
Oui, mais il faut faire très attention de ne pas juger les choses sur les extérieurs. Parce qu'il manque quelque chose, il manque mais toujours comment, quelque chose. Il manque quelque chose à si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas la foi, et c'est la lumière de la charité. La lumière de la charité, s'il manque ça, il manque tout. Vous voyez, ça, c'est très très difficile à faire comprendre aux jeunes aujourd'hui. Ils ont un mal fou qu'on fait comprendre, c'est cela. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, justement, que pour arriver à avoir un minimum de paix intérieure, il faut justement avoir une certaine connaissance de Dieu. Vous voyez. Et la plupart des gens s'en moquent complètement. D'accord ? Alors, Saint Ignace va même dire jusqu'à, si vous voulez, c'est l'application de la phrase de Saint Léon le Grand, je crois, « Chrétien, souviens-toi de ta dignité, matine de Noël. Chrétien, souviens-toi de ta dignité. » Quelle est la dignité de l'homme ? La dignité de l'homme, c'est précisément son âme. L'existence en son âme, d'une marque particulière qu'on appelle la marque de la charité. Le baptême donne à l'âme une grâce particulière qui ne peut plus être ôtée, c'est absolument impossible. Alors, les pères vont jusqu'à dire que l'image même de la Sainte Trinité se trouve dans l'esprit en tant qu'il y a en lui la mémoire, l'intelligence et la volonté. C'est-à-dire l'existence dans notre âme, dans notre cœur catholique de ces trois choses, si vous voulez, l'existence dans le cœur d'un catholique, est-ce que c'est ça, d'une certaine forme de Sainte Trinité, va expliquer bien les choses. Qu'est-ce que dit saint Thomas d'Aquin ? Il dit que l'image de la Trinité se trouve dans l'esprit, en tant qu'il y a dans cet esprit, et mémoire, une intelligence et une volonté. La mémoire, l'intelligence et la volonté qui travaillent ensemble, c'est une figure de la Sainte Trinité. Figure de la Sainte Trinité. L'image de la Trinité se trouve dans l'esprit en tant qu'il y a en lui mémoire, intelligence et volonté. Cette image de Dieu n'existe pas seulement dans l'esprit même, mais aussi dans l'esprit angélique. Alors, ensuite, un paragraphe extrêmement important, donc encore une fois, c'est un résumé, je n'ai pas le temps de tout expliquer. L'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Celui de la volonté, c'est le bien. J'expliquais ça très souvent. Dans l'homme, si vous voulez, l'intelligence et la volonté sont séparées. L'intelligence n'est pas la volonté n'est pas l'intelligence. Est-ce qu'en Dieu, il y a une séparation entre l'intelligence et la volonté ? Non. Parce qu'en Dieu, si vous voulez, l'essence divine, c'est son existence, c'est sa volonté. Donc l'intelligence, on peut dire que l'intelligence divine correspond à la volonté. D'accord ? Donc il n'y a pas, si vous voulez, en Dieu de séparation comme chez nous. Donc, en Dieu, si vous voulez, l'essence, l'intelligence et la volonté sont une chose et même chose. Une seule et même chose. Dieu peut comprendre quelque chose par intelligence, immédiatement développer cette chose par sa volonté en un seul acte. Nous, on en est incapables. On est obligé de passer par toute une série d'intermédiaires pour avoir une idée de ce qui se passe à l'extérieur. Alors je lis ce paragraphe qui est très important. L'objet de l'intelligence, c'est le vrai, celui de la volonté, c'est le bien. Dieu donne à chacun d'entre nous les moyens surnaturels pour arriver à monter au ciel. Donc l'intelligence, c'est le vrai qui va être l'objet de l'intelligence. C'est-à-dire l'intelligence nous est donnée pour découvrir le vrai. La volonté nous est donnée pour découvrir le bien. C'est-à-dire qu'il faut donc exercer deux choses dans un certain ordre. D'abord l'intelligence pour la volonté, surtout pas l'inverse. L'intelligence va nous montrer où je suis, la volonté va nous montrer où je dois aller. Donc d'abord utiliser notre intelligence pour savoir où on est, une fois qu'on a compris où on est, à ce moment-là on peut demander à la volonté de nous conduire à l'endroit où est le vrai. Ça ne suffit pas du tout de savoir où est le vrai. Il y a des tas de gens qui connaissent l'existence de Dieu, mais qui ne s'en préoccupent pas. Il faut non seulement connaître le vrai, mais il faut voir l'atteindre. Ces gens, ils sont très fréquents, qui nous disent régulièrement dans la rue, moi je suis catholique non pratiquant. C'est quoi un catholique non pratiquant ? C'est un catholique qui dit, je crois en Dieu, mais immédiatement après il rajoute, cependant tout ce qui me dérange, je m'en fous. Donc qu'est-ce qui est beaucoup plus grave ? Bien, c'est précisément ça. C'est précisément bien plus grave, si vous voulez, d'être catholique non pratiquant que d'être un païen. Parce que le catholique pratiquant, le catholique, si vous voulez, à partir du moment où il est baptisé, a une marque sur son âme qui ne peut pas être enlevée. On appelle le caractère d'enfant de Dieu. Ce caractère, il est là pour toujours. Donc, personne ne peut enlever ce caractère. C'est absolument impossible. Donc, il y a une beauté d'âme, si vous voulez, dans une âme qui est marquée par l'état de grâce, par la grâce sanctifiante, qu'il n'y a pas, évidemment, dans l'âme d'un païen. C'est pour ça que l'Église a toujours enseigné que seuls ceux qui sont marqués par le signe de la charité pouvaient rentrer au ciel. Les autres ne peuvent pas. Donc c'est une aberration, un crime de lèse-majesté que de dire, par exemple, comme l'a dit Benoît XVI, je ne sais pas combien de fois, un crime de lèse-majesté que de dire qu'il n'y a pas de différence entre un protestant, entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui ne l'a pas. Parce que justement, la charité qui découle de la foi, la charité va donner une beauté d'âme spéciale que n'a pas le non-catholique. C'est pas évident de comprendre ces choses. Rappelez-vous, cette remarque, j'ai déjà voulu l'expliquer plusieurs fois, de Mgr Lefebvre qui avait repris un séminariste qui avait dit « Il vaut mieux être un mauvais catholique, un mauvais protestant qu'un bon... Non, il vaut mieux être un... Il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. » Et Mgr Lefebvre avait repris le séminariste avec raison en disant « Non, parce que l'âme du catholique est marquée par un signe indélébile qui est la charité, que n'a pas et que n'aura jamais le protestant. » Alors, en Dieu, il n'y a pas de distinction entre l'essence et l'existence, il n'y a pas de distinction non plus entre l'intelligence et la volonté. Donc l'intelligence divine est la divinité. La volonté divine, c'est aussi la divinité. Donc en l'homme, il y a une différence, il y a une distinction entre l'intelligence et la volonté. Donc l'homme peut savoir très bien où il doit aller, c'est le cas des catholiques qui se prétendent comme non-pratiquants. Quand il dit qu'il est non-pratiquant, ça veut dire quoi? Je sais qu'il y a Dieu, il m'attend là-haut au ciel. Mais je m'en fous. Je continue à vivre n'importe comment. Vous voyez, donc il sait très bien où il doit aller, ça c'est l'intelligence. Mais il refuse que la volonté prenne le pas, vienne illuminer, utiliser l'illumination de l'intelligence pour pouvoir après indiquer comment pratiquement aller jusqu'à là. Beaucoup de gens s'arrêtent à la simple connaissance de Dieu. C'est ça le drame. Tous les gens, ils sont pléthores maintenant, qui disent par exemple, je suis catholique non pratiquant. Je suis catholique non pratiquant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je sais qu'il y a un Dieu, mais dans la pratique, je fais comme il n'existait pas. Je sais qu'il y a un Dieu, mais dans la pratique, je m'en fous complètement. C'est beaucoup plus grave. Donc, il y a des docteurs qui vont jusqu'à dire qu'il est absolument impossible pour quelqu'un d'être athée. Quelque part, la condition sine qua non pour pouvoir prétendre être athée, c'est de ne pas avoir l'intelligence. Quelqu'un qui a une intelligence, si vous voulez, qui est complètement détruite par une maladie infantile ou un truc comme ça, il peut effectivement dire C'est ça. Personne ne peut dire qu'il est athée, parce que quelqu'un qui dit qu'il est athée dit en quelque sorte je refuse d'utiliser mon intelligence. Donc quelqu'un qui est athée sera obligé un jour de reconnaître je n'ai pas l'intelligence. Or que puisque tout le monde a l'intelligence, tout le monde a la possibilité de découvrir au moins une partie de Dieu par la remontant des créatures vers le Créateur. Alors, en Dieu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'homme, il y a une distinction entre l'intelligence et la volonté. Donc, malheureusement, l'homme peut très bien découvrir très bien où il doit aller. Il sait très bien, je dois aller par là. Dans la partie, il peut dire, mais ça, je m'en fiche, parce que ça ne m'intéresse pas d'aller par là, je vais par là de l'autre côté. C'est ça qui est grave. Donc, chez l'homme, il y a une distinction entre l'intelligence et la volonté, entre l'essence et l'existence. Donc, l'intelligence peut nous indiquer l'endroit où on doit aller. Mais tant qu'on n'embraye pas avec la volonté, il manque quelque chose. Hein. Alors vous pouvez avoir des gens qui connaissent parfaitement leur catéchisme. Moi, je connais, qui connaissent par cœur leur catéchisme, qui sont des grands pontes dans les milieux cédévacantistes. Et puis, ils savent tout. Ils connaissent par cœur le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pélis, c'est tout ça. Ils ont tout lu. Il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel parce que, malheureusement, je connais juste certains cas en ligne de mire actuellement, il y a des gens qui connaissent tout, qui ont tout lu, qui ont pratiquement une intelligence, un degré d'intelligence extraordinaire, mais il leur manque l'essentiel. Qu'est-ce qui manque? Il leur manque tout simplement l'état de grâce. Parce que j'ai connu des gens comme ça, et puis quand on interroge un peu et qu'on commence un petit peu à piocher voir un petit peu ce qu'il y a sous la mousse qui dépasse, on se rend compte qu'il y a des problèmes énormes derrière, qu'ils n'ont jamais voulu régler. C'est vrai qu'on peut arriver parfois à trouver des autorités très fortes, morales, dans la tradition. Puis quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il fait très bien, il fait beaucoup de choses, il lit beaucoup, il fait des tas de trucs, il manque l'essentiel, il n'a pas la vérité, parce qu'il vit tranquillement avec la femme de son voisin. Donc il est évident que tant qu'on vit avec la femme du voisin, la porte de notre âme est fermée. La charité de Dieu ne peut pas rentrer dans cette âme. Bon, donc, c'est à cause de cette distinction qui est très importante pour nous entre l'intelligence et la volonté, c'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il a automatiquement la volonté pour atteindre dans la pratique l'objet de son intelligence, mais si vous voulez, il va toujours manquer quelque chose. Ce qui n'est pas le cas pour Dieu, parce qu'en Dieu, Dieu ne peut pas avoir de conflit entre son intelligence et sa volonté. Pourquoi ? Parce que l'intelligence et la volonté divine en notre Seigneur Jésus-Christ sont une seule, non, je veux dire en Dieu, sont une seule et même chose. Donc il n'y a pas de temps, si vous voulez. Nous, on embraye d'abord avec l'intelligence pour découvrir où est le vrai. Une fois qu'on l'a trouvé, on fait embrayer, on embraye avec la volonté pour savoir comment atteindre ce vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne comprend pas les choses comme ça. Lorsque Dieu fait un choix, c'est un choix définitif. Donc par l'intelligence, il va créer quelque chose, si vous voulez. Par l'intelligence, donc le but de l'intelligence, c'est le vrai. Et immédiatement, en même temps qu'il crée quelque chose par l'intelligence, la volonté est déjà embrayée. C'est-à-dire qu'en Dieu, il n'y a pas une intelligence et une volonté, c'est une seule et même chose. En tout cas, c'est ce que dit très bien Saint Thomas d'Aquin, d'accord ? Par contre, chez l'homme, malheureusement, il y a cette distinction. Et c'est parce que l'homme, l'intelligence et la volonté ne sont pas les mêmes choses qu'il s'appelle constant entre les deux, justement. Beaucoup de gens se comme ça. Ils savent où est le vrai, ils savent très bien où est le vrai, mais dans la pratique, ils ne veulent rien faire. Parce que s'ils veulent faire quelque chose, ça va commencer à exiger certains changements. Alors, on avance un petit peu, page 20 maintenant. Alors, je passe sur les choses qui sont un peu trop philosophiques. Bon. Le bien, par exemple, le bien, le vrai, dit saint Thomas, en Dieu, sont convertibles. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas justement de distinction entre le bien et le vrai en Dieu. À la fin du troisième paragraphe de la page 20, là, je cite dans la Somme théologique de saint Thomas une très très belle citation de saint Augustin, en fait. Deux cités sont fondées sur deux amours. L'une, la cité terrestre, fondée sur l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. L'autre, la cité céleste, fondée sur l'amour de Dieu et jusqu'au mépris de soi. Soit j'aime notre Seigneur Jésus-Christ, je prétends aimer notre Seigneur Jésus-Christ et je vais fonder ma vie sur l'amour du bon Dieu et le mépris de moi-même, soit malheureusement, je fonde ma vie sur le mépris de Dieu et l'amour de moi-même. Le drame, c'est le drame, si vous voulez, il est là, c'est que beaucoup de gens n'ont plus ces choses, ne comprennent pas l'importance de l'état de grâce. Et j'ai encore eu un cas, qu'est-ce qu'il m'a confié ce cas il y a deux jours, hein. Encore un cas, des personnes qui étaient mariées religieusement, donc ils ont divorcé depuis longtemps, puis un beau jour, et ils trouvent une âme sœur, et donc il va voir le curé parce qu'il voulait se marier à l'église. Et le curé moderne lui dit, bon, ben, en principe c'est interdit, cependant je viendrai pour une espèce de bénédiction. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Mais comment voulez-vous dans ces cas-là qu'on aide les personnes à se rapprocher du bon Dieu ? Nullement. Il fallait avoir le courage de dire à cette personne, écoutez, tant que vous êtes dans cette situation, vous ne pouvez pas recevoir le sacrement, c'est absolument impossible. La philosophie, si vous voulez, la philosophie va simplifier ces choses-là en utilisant une formule qui est très belle, qui dit que Dieu est l'être par essence. Oui. Bon, l'être par essence, alors que les créatures, qui sont évidemment sous Dieu, les créatures sont des êtres par participation. C'est que Dieu, dans sa bonté, nous fait participer à la divinité de notre Seigneur. C'est une participation. Donc on ne peut pas dire je suis la voie, la vérité, la vie, encore une fois, on dit j'appartiens à la voie, la vérité, la vie. Dieu seul peut dire je suis. L'homme ne peut pas dire je suis, c'est impossible. Parce que l'homme par lui-même n'est rien parce qu'il existe par participation. C'est comme une petite marionnette, si vous voulez, il y a un fil qui agite la marionnette, on coupe le fil, il n'y a plus rien. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Je suis un être qui est créé par participation. C'est pour ça que la notion de créature est absolument essentielle dans la compréhension justement de toutes ces choses-là. À la base, c'est ce que vous avez Dieu et l'homme, Dieu est le créateur et l'homme est créature. Et c'est pour ça qu'actuellement, dans mon modèle, ils dépensent des milliards dans mon modèle pour essayer de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de... que la création n'existe pas. Que chacun n'étant pas créé par Dieu, chacun devient son propre Dieu. Parce que si chacun devient son propre Dieu, ça veut dire quoi ? C'est que chacun peut faire ce qu'il veut avec son intelligence, sa volonté, sa liberté de conscience. Et ça, c'est très important à comprendre. Hein, que, attention, nous sommes des êtres par participation et pas par essence. Dieu seul est un être par son essence. Hein. Donc, nous sommes par participation, ça veut dire que nous dépendons, il y a une notion de dépendance pour nous. Mon Seigneur a fait, une fois une très belle conférence, vous l'avez dit, ce qui sera terrible le jour de notre mort, c'est qu'on va réaliser à quel point nous étions dépendants de Dieu. Le problème, c'est que c'est trop tard. Mais c'est que c'est trop tard. Vraiment, Dieu nous voit. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu nous voit. Dieu nous donne l'agir et le si vous voulez, la matière, la forme. Il va nous donner, si vous voulez, pas simplement la connaissance des choses. Il va nous donner le moyen d'atteindre cette connaissance dans sa grande bonté. Donc, alors, là, c'est au milieu de la page 20. Saint Thomas va parler d'une chose très belle. Il va justement expliquer comment cette participation à la divinité va dépendre du degré de charité, mais donc va être différente pour chaque personne. Et alors, il va parler d'une triple conversion à l'égard de Dieu, possible vers le bon Dieu. La première conversion, c'est ce qu'on appelle la grâce d'union. La première, par cette parfaite direction qui est celle de la créature jouissant déjà de Dieu. Donc quand on est en état de gloire ou de grâce consommée, on ne peut plus perdre cette gloire, on ne peut plus perdre cette grâce. C'est l'état d'union la plus haute qu'on puisse considérer. Et ce qu'il faut très comprendre, c'est que cette grâce d'union, strictement parlant, elle devrait être contre le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va la donner, cette grâce d'union, ce qu'on appelle une grâce d'union, au prêtre. Et il ne faut pas croire que lorsque un jeune diacre est ordonné prêtre, il ne faut pas croire que c'est simplement la grâce sanctifiante qui va lui mener cette âme. C'est une grâce bien plus supérieure qu'on appelle la grâce d'union. La grâce d'union, c'est-à-dire que le prêtre va pouvoir dire « je suis », alors qu'un homme normal ne peut pas dire une chose comme ça. Le prêtre qui s'élève, le prêtre qui absout au confessionnal, peut littéralement dire « Je suis la voie, la vérité, la vie, dans le sens qu'il devient, si vous voulez, il est possédé totalement par la divinité, et donc à ce moment-là, il peut vraiment dire « je t'absous ». Il peut vraiment dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». À tel point, je vous l'ai déjà dit, que imaginez quelqu'un qui par fausse humilité refuserait de prononcer cette phrase, et dirait que le Seigneur Jésus-Christ absolve. D'ailleurs, dans la formule de pardon des péchés, au début, il y a une longue prière. Entre autres, il dit que le Seigneur te pardonne tes péchés. Le Seigneur t'absolve de tes péchés. Ce n'est pas encore là que les péchés sont enlevés. Les péchés sont enlevés, mais après, si le prêtre s'arrête, et à ce moment-là, il met sa main assez haut comme ça, et puis il va dire, je t'absous de tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là où le pardon est accordé. Je t'absous de tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le prêtre ne pourrait pas dire que Dieu t'absolve de tous tes péchés. S'il le disait, ce serait vrai. Il n'y a pas de confession. C'est la même chose pour la messe. La messe est tellement grande que le prêtre dit, il va s'arrêter, si vous voulez, il va lire d'abord le récit de l'institution de la Sainte Eucharistie, le récit de la scène, puis il s'arrête net, et là il va changer de ton littéralement. Il va changer de ton, c'est pour ça que le prêtre, au moment où il va prononcer les paroles de consécration, s'arrête, change de ton littéralement, pour prononcer à ce moment-là de façon très très distincte les paroles consécratoires, ceci est corps. Ceci est mon sang. Et Dieu donc va accorder à des créature, la grâce d'union, qui n'est en tant que telle que la grâce qui est en notre Seigneur Jésus-Christ par son union hypostatique. Donc la grâce que le prêtre reçoit par son caractère sacerdotal est une grâce qui touche à l'union hypostatique, pas à la grâce sanctifiante. C'est une grâce largement supérieure. Donc voilà ce qu'il dit saint Thomas. Page 20 au milieu, là, il y a une triple conversion possible vers Dieu. Première conversion, par cette parfaite direction, direction c'est l'amour, c'est pareil, par cette parfaite direction qui est celle de la créature jouissant déjà de Dieu. Elle requiert la grâce consommée. Cette grâce d'union, strictement parlant, c'est aussi celle des gens au ciel. Une fois que les gens sont au ciel, ils ont cette grâce d'union, dans le sens qu'ils ne peuvent plus perdre cette union entre le Seigneur Jésus-Christ. Et cette grâce d'union est déjà dans le prêtre. Ça ne veut pas dire, malheureusement, que le prêtre est sûr d'aller au ciel, ce serait un peu trop simple. Le prêtre, malheureusement, peut pécher, hélas. Mais par cette grâce d'union, si vous voulez, il y a une participation bien plus forte à la divinité de ton Seigneur Jésus-Christ. Deuxième conversion possible, celle qui mène à la béatitude. Béatitude, c'est la béatitude éternelle, c'est quoi? C'est le salut. Celle qui mène au salut, et cette conversion, c'est-à-dire ce changement de vie, requiert la grâce habituelle. La grâce habituelle, c'est la grâce sanctifiante. Grâce sanctifiante, grâce habituelle, c'est la même chose. Et le mot habituel est bien plus fort, parce que, comment dire, on parle en général de grâce sanctifiante, parce que c'est la formule consacrée pour les fidèles. Mais la grâce sanctifiante est, en fin de compte, une grâce habituelle. Ça veut dire une grâce habituelle. Une grâce qui repose dans l'âme de façon habituelle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce que provoque le péché mortel dans une âme qui habituellement donne grâce, quoi. C'est comme, vraiment, imaginez, vous avez fait la baraque, fait la maison, c'est un peu ça, quoi. Par le péché mortel, tout est détruit systématiquement, il ne reste plus rien. Troisième conversion, et celle par laquelle on se prépare à recevoir la grâce. Vous voyez, donc les trois degrés. Premier degré, le degré de la créature qui jouit déjà de Dieu au ciel. Eh bien, la grâce du prêtre par son sacerdoce, c'est cette grâce-là qu'on appelle la grâce d'union. Deuxième grâce. La grâce qui mérite la béatitude, qui requiert la grâce habituelle, principe du mérite. C'est-à-dire que la grâce habituelle, c'est la grâce sanctifiante. Donc, deuxième conversion possible, le passage du péché à la grâce habituelle, la grâce sanctifiante. Troisième conversion, par laquelle on se prépare à recevoir la grâce. Elle ne requiert pas la grâce habituelle, mais une opération de Dieu convertissant l'âme à lui. C'est-à-dire que Dieu, dans sa bonté, va aller rattraper le pécheur qui est mis dans le péché jusqu'au cou et lui donner certaines grâces pour qu'il puisse se remonter et revenir vers lui. Ce qu'on appelle la grâce actuelle. Donc, si vous voulez, il y a donc trois sortes de grâces. La grâce d'union, la plus élevée, la grâce sanctifiante, la grâce habituelle, l'état de grâce, et la grâce actuelle. La grâce actuelle qui est un don tellement grand de Dieu que Dieu tolère que cette grâce actuelle, justement, soit donnée à des gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou. Vous commettez un péché, quel que soit ce péché, vous dites quoi? Puis vous rentrez à vous-même, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une chose mauvaise, je vais faire commettre une action interdite par l'ordre du bon Dieu. Donc on lâche tout pour aller se confesser. Bon, vous voyez, c'est ce genre de grâce qu'il nous faut. Donc la première grâce, si vous voulez, c'est la grâce d'union, qui est la grâce sacerdotale. N'oubliez pas que le prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, est souverain prêtre. Hein. Donc lui, par définition, la grâce d'union. Deuxième grâce, la grâce habituelle, c'est la grâce sanctifiante, principe du mérite. C'est-à-dire que le nombre de mérites qu'on va acquérir par notre vie, notre mort, va dépendre directement du degré de charité que nous avions au moment de mourir, que nous aurons au moment de mourir. Enfin, troisième grâce, la grâce actuelle. La grâce actuelle qui est tellement forte qu'elle peut être donnée à des gens qui sont dans le péché mortel jusqu'au cou. La grâce actuelle, c'est les petites grâces que Dieu a données en passant pour permettre à l'âme de se ressaisir et de revenir vers lui. Ça, c'est très important à expliquer aux enfants. Parce que souvent, les jeunes se disent, bon, je vais faire des bêtises ce soir parce que je sors avec tous mes copains. On va aller danser, faire du n'importe quoi pendant toute la nuit. Mais demain, je vais me confesser. Beaucoup de gens comme ça. Et donc, ils vont se confesser, mais ils oublient que pour pouvoir avoir le désir surnaturel de la confession, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà une grâce spéciale, une grâce particulière qu'on appelle justement la grâce actuelle. Donc, les grâces actuelles sont des petites grâces que Dieu peut donner à n'importe qui, même en état de péché mortel. Et cette grâce actuelle est nécessaire pour le retour à la case confessionnelle. Sans la grâce actuelle, on ne peut rien faire. Vous voyez ? Donc il y a trois degrés. Le plus haut, c'est la grâce d'union. Deuxième degré, la grâce habituelle ou sanctifiante. Troisième degré, la grâce actuelle. Troisième conversion, dit donc saint Thomas d'Aquin, est celle par laquelle on se prépare à recevoir la grâce. Il ne requiert pas la grâce habituelle, la grâce sanctifiante, mais une opération de Dieu convertissant l'âme à lui, selon cette parole de l'Écriture, « Faites-nous revenir à vous, Seigneur, et nous reviendrons. » L'inclination de la grâce n'impose donc pas de nécessité, mais celui qui possède la grâce peut ne pas s'en servir et pécher. La grâce, c'est ça le mystère, si vous voulez, insondable, c'est que Dieu va donner des grâces extraordinaires à certaines personnes, ce qui n'empêche pas que ces personnes vont pouvoir tout perdre très facilement par le péché. C'est Dieu respecte notre libre arbitre. D'accord ? Alors, beaucoup de gens pensent que le libre arbitre, de la liberté qu'on a, est une cause suffisante du mérite, qu'on peut simplement par nos propres forces augmenter les mérites que nous avons dans le sac à dos pour les présenter à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre que l'homme est incapable par sa propre puissance, sa propre force, d'augmenter son mérite. Parce qu'il faut que ce soit quelque chose de surnaturel. De même que l'homme, si vous voulez, qui vient de commettre un péché mortel, est incapable de regretter son péché de façon surnaturelle, sans une grâce du bon Dieu, c'est impossible. Donc quand les jeunes se disent « J'ai commis un péché, mais j'aime confesser demain », attention, c'est une des conditions à remplir pour se confesser le lendemain. Première condition, il faut être vivant. La fracture au milieu de la nuit, vous n'avez pas besoin de confesser. Première condition, il faut donc être vivant. Et deuxième condition, il faut avoir l'usage de sa liberté. Pas l'usage de sa liberté, c'est par l'usage de la liberté, justement, que l'homme va pouvoir précisément acquérir ses mérites. Vous voyez ? Il faut la grâce sanctifiante. Hein. Une personne qui est morte, une fois qu'on est morte, il n'y a plus de possibilité de gagner des mérites. Pourquoi ? Parce que l'âme est dans cette situation de dépendance totale de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Donc, ça ne suffit pas, par exemple, de dire, bon, j'irai me confesser ce soir. Attention, pour pouvoir vous confesser de façon digne, il faut avoir une grâce spéciale, qui n'est pas la grâce sanctifiante que les pécheurs ne peuvent pas avoir, qui est la grâce actuelle. Là, qu'il faut faire très attention à ne pas oublier ça, que la contrition, pour être une contrition efficace, c'est le Concile de Trente qui le dit, j'insiste toujours là-dessus au début des exercices Saint-Ignace, c'est que cette contrition doit être à la fois, cette douleur d'avoir offensé Dieu doit être à la fois interne, surnaturelle, souveraine, mais le plus important, c'est le caractère surnaturel. Donc, suprême, interne, souveraine, ça veut dire quoi, souveraine ? Ça veut dire que le degré de contrition que j'ai parce que j'ai perdu le bon Dieu doit être supérieur au degré de contrition que je pourrais avoir parce que j'ai perdu une chose matérielle. D'accord ? Donc, l'âme ne peut pas augmenter son mérite par ses propres forces, c'est impossible. Il faut que le bon Dieu s'en mêle. Alors, ici, il y a une phrase très importante aussi, la grâce. Donc, c'est trois paragraphes, quatre paragraphes avant la fin de la page. La grâce perfectionne la nature sur le mode de cette nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la grâce ne détruit pas la nature. Pour que la grâce puisse atterrir, se poser sur une âme, il faut que l'âme soit préparée, il faut que le terreau soit là. S'il n'y a pas de terreau dans cette âme, l'âme ne peut pas rien faire parce que justement, il va manquer l'essentiel. D'accord ? Donc, la grâce ne détruit pas la nature, mais va l'élever. La nature humaine reste là, même chez le pécheur. La grâce va simplement se rajouter là-dessus pour augmenter l'amour du bon Dieu dans cette âme. D'accord ? Donc, après un péché grave, il est impossible de retourner au confessionnal sous une grâce particulière qu'on appelle la grâce actuelle. D'accord ? Donc, c'est aussi ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc, c'est la partie en gris, en gras, caractère gras, en bas de la page 1, 2, 3, 4 paragraphes avant la fin. Pour être méritoire, l'acte libre doit être informé par la grâce. Donc, l'exercice de son libre arbitre, sans acte méritoire, je veux dire sans la forme donnée par la grâce sanctifiante, par l'état de grâce, ne sera pas méritoire du tout. Donc c'est-à-dire, vous pouvez avoir donné, c'est ce que dit saint Paul, vous pouvez avoir donné votre vie pour acheter le prochain, vous pouvez donner tous vos avoirs pour soigner les pauvres, c'est pas la charité ordinaire. C'est-à-dire quoi? Et s'il manque cette grâce spéciale, eh bien, on peut rien faire. Donc c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'on voit parfois des jeunes qui viennent toucher les jeunes, ils viennent parfois se confesser, mais on sent très bien qu'il leur manque ce caractère surnaturel de la grâce. Ils se confessent par habitude, c'est tout. Donc, la grâce, on dit que la grâce de Dieu ne détruit pas la nature, mais va l'augmenter. La grâce ne détruit pas la nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la grâce va faire un miracle à chaque fois. La grâce, c'est travailler avec une nature humaine. Et si je joue avec, en gros, en bon français, ça veut dire si je joue avec le feu, ben je brûle. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. La grâce va élever la nature, mais la grâce ne détruit pas la nature. C'est impossible. Donc, alors, voyons un petit peu la fin de la page 20. Je vais terminer cette question importante. Donc, l'article 3, question 56. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Les anges qui ont reçu une nature plus parfaite ont obtenu aussi plus de grâce et de gloire. De même que le libre arbitre puisse choisir divers moyens du moment qu'ils sont ordonnés à la fin, cela relève en lui cette perfection qu'est la liberté. Mais qu'il opère un choix en se soustrayant à l'ordre de la fin, ce qui est péché, cela relève de ce qu'il y a de déficient dans sa pensée, dans sa liberté. C'est pourquoi il y a une plus grande liberté chez les anges qui ne peuvent pas pécher qu'en nous qui pouvons pécher. N'oublions pas que tous les pères de l'Église, à peu de choses près, disent que la pomme qui a été volée par Adam et Ève dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette pomme, c'est la liberté. Regarde les conséquences. Depuis qu'on a cueilli, qu'Adam et Ève ont cueilli la liberté, ben, on voit bien que bon. Tout est en train de s'écouler. C'est pour ça que cette liberté de conscience dont nous rabat les oreilles actuellement, c'est tout simplement le moyen de détruire le christianisme. D'accord ?
Pour les âmes du purgatoire, elles ont besoin de se convertir.
C'est un peu compliqué les âmes du purgatoire. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont dans un état de passivité totale. Donc elles ne peuvent rien pour elles-mêmes. C'est controversé de savoir est-ce qu'une âme du purgatoire peut faire quelque chose directement pour nous. Saint Thomas pense que non. Parce qu'une âme dans le purgatoire est dans un état de docilité, si vous voulez, la grâce totale, un état de purification. Elle est purifiée, donc elle ne peut encore rien faire. Et c'est simplement lorsqu'elle sera au ciel qu'elle se rendra compte que telle ou telle personne a prié pour elle, donc a raccourci son temps de purgatoire, qu'à ce moment-là, elles vont pouvoir intervenir pour nous aider. C'est discuté entre les pères. Il y en a qui disent non, on peut prier les âmes du purgatoire. Moi, je pense qu'on peut, je me suis la théorie de saint Thomas d'Aquin, qu'on prie pour les âmes du purgatoire, mais qu'on ne peut pas demander l'aide des âmes du purgatoire tant que ces âmes ne sont pas au ciel, parce qu'elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes. Elles sont dans un état de passivité totale. Bon, c'est pas enseigné par tous. Il y en a qui lisent ça. Bon, je crois que mes connaissances sont exactes. Je pense que l'Église a laissé libre sur ce sujet, au moins jusqu'à présent. Un jour, ça a été défini. Hein. Alors, si vous voulez, la liberté, c'est ça qu'il faut arriver à se mettre dans la tête. Donc, la pomme qui a été prise par Adam et Ève, c'est la pomme de la liberté. Donc la liberté de pécher est une imperfection. Les gens nous parlent de liberté à longueur de journée. Liberté, égalité, fraternité. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient absolument pas la route. Pourquoi? Justement parce qu'il manque l'essentiel. Donc la liberté de pécher n'est pas quelque chose à désirer, c'est quelque chose à craindre. Et ici-bas, malheureusement, tant qu'on est ici-bas, on peut perdre le bon Dieu. Une fois qu'on est au ciel, c'est fini, terminé. Parce qu'il n'y a plus le temps, si vous voulez, on est hors du temps, et là, à ce moment-là, on comprendra que la liberté de péché, c'est une imperfection. Il faut beaucoup mieux être dans l'état, des anges qui, eux, ne peuvent plus pécher une fois qu'ils ont été confirmés en grâce. D'accord ? On voit ce que dit saint Thomas, en bas de la page 1, on va terminer avec ça. Le péché n'est donc pas autre chose qu'une déviation par rapport à la rectitude de l'acte qu'on doit accomplir. C'est donc un péché d'orgueil. Et donc un péché d'orgueil de ne pas se soumettre à son supérieur lorsqu'on le doit. C'est pourquoi le premier péché de l'ange ne peut être qu'un péché d'orgueil. L'intention divine n'est frustrée ni à propos de ceux qui pêchent, ni à propos de ceux qui sont sauvés. Dieu a prévu l'un et l'autre également. l'un et l'autre événement, et de l'un et de l'autre, il tire sa gloire, soit en sauvant les fidèles en raison de sa bonté, soit en punissant les pécheurs en raison de sa justice. Là, c'est une phrase absolument fondamentale, mais qui n'est pas facile à comprendre. Hein. C'est que, faut savoir que Dieu ne peut pas augmenter sa gloire est déjà infinie. Ce sont des façons de parler, on dit que Dieu va souffrir du péché, mais Dieu étant au ciel, avec une nature divine, ne peut pas souffrir du péché, dans le sens qu'il ne peut pas avoir de sentiment, bon, il n'a pas de sentiment. Cependant, le péché va attaquer la gloire, la gloire accidentelle de Dieu, une gloire qui se rajoute, si vous voulez, à son essence. À l'essence, on ne peut rien faire, on ne peut pas. Quand on dit que le péché va enfoncer un huitième glaive dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une façon de parler. Ce n'est pas possible en tant que tel. Quand on dit que Dieu pleure le pécheur, c'est pour expliquer la chose. Est-ce qu'il est possible pour Dieu au ciel de pleurer? Non, parce qu'il est parfaitement là au ciel. Bon. Donc, Dieu va faire éclater sa gloire, si vous voulez, et avec les bons anges et avec les mauvais anges. Avec les bons anges en justement leur donnant leur récompense, avec les mauvais anges en les punissant. Donc, soit notre Seigneur Jésus-Christ va sauver les âmes en raison de sa bonté, soit il va permettre qu'elles se damnent en raison de sa justice. On est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. Quelqu'un peut devenir un esclave complet, par exemple, de la, je sais pas moi, de l'argent, de la pureté, de l'orgueil. Mais, si vous voulez, il devient esclave de la... De ce que c'est ça le texte. Il devient esclave, si vous voulez, de la personne à qui il se donne. Quand on se donne un démon, on devient esclave du démon. Vous donnez un vice particulier, vous devenez esclave de ce vice. On est donc l'esclave, c'est une phrase en fait de Saint Paul, je crois. On est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. Les démons voulaient avoir un inférieur pour prince et pour chef en vue de conquérir par la puissance naturelle leur béatitude ultime. Donc le péché des anges, le péché d'Adam et Ève, le péché pardon, des anges au début, c'est un péché d'orgueil. Ou parce qu'ils ont dit carrément qu'ils luttaient contre Dieu, ou parce qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir devenir Dieu à la force du poignet. Cela confirme encore l'indépendance du libre-arbitre qui peut s'infléchir vers le mal, quelle que soit la dignité de la créature. Donc on a tous le libre-arbitre, mais c'est une imperfection. C'est simplement quand on sera débarrassé de ce libre-arbitre qu'au ciel, qu'on pourra être sûr de ne plus perdre notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vais vous laisser là. Parce que c'est quand même un peu philosophique que je lis. Je vous conseille de relire, si vous pouvez, au moins ces pages, donc le 18, 19, 20, en haut de la page 21. Donc la prochaine fois, on continuera avec des choses plus faciles, l'obscurcissement de l'intelligence des démons, hein, et puis aussi l'obstination de la volonté des démons. Donc on verra tout ça la prochaine fois. Alors je vais noter ça pour être sûr que je retrouve mon passage. Aujourd'hui, on est combien? Alors c'est une... Le 15, non?
Oui.
15, 12, 2000. Voilà, on va terminer par une petite prière. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour
Saint Joseph,
priez pour
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour
nous. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.